Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Fred Weiss, Christophe Cessieux, Alizé Cornet et Julien Beneteau. Aujourd'hui, dans un instant, les amis, on va parler sport de raquettes. Je vous préviens, sur le buzzer. Les Bleus du tennis de table, oui, sont en finale des championnats d'Europe. Par équipe, ça suit à 17h. Ça se déroule où, Benette ?
À Zadar, en Croatie.
Ouais, voilà, on fait de la géographie hein, tous les jours dans les grandes gueules du sport. La France attend un titre depuis 1998. Les frères Lebrun sont-ils déjà des légendes du sport ? Est-ce que les mots ont un sens ? Je sens qu'on va beaucoup parler de ça.
Vous me connaissez. Hein.
En fin d'émission, participez avec vos GG au jeu du sport et remportez votre PC portable Altic, la marque française installée à Nantes. Je vous rappelle donc, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Tout de suite, les GG, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
C'est le moment où on se confie, où on partage les expériences, où on apprend avec Christophe, on apprend des choses sur vous, souvent.
Ouais, c'est pas nous qui allons parler d'argent.
T'es sûr, toi?
Oui.
Les GG, cette semaine, on a parlé de la valorisation salariale demandée par Ousmane Dembélé après son ballon d'or. On a parlé des exhibitions il y a quelques instants, de Yannick Sinner, comme Alcaraz, qui a donc reconnu que sa participation à l'exhibition en Arabie Saoudite, elle était aussi guidée par l'argent. Je rappelle, il a gagné 6,5 millions, hein, donc pour avoir remporté le 7-5. Six King Slam. 7-5.
Ouais, il a pris 1,5 million de garantie, 6,3 millions de monnaie.
Ah, toi sur l'argent, on peut pas t'avoir.
Non, c'est les mathématiques.
Waouh, impressionnant.
Savoir compter quand on est sportif de niveau.
Aujourd'hui, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle ensemble de ça, un sujet qui est souvent un petit peu tabou dans le monde du sport, en France même peut-être en général. Comment l'argent guide votre carrière. J'ai deux tennisman avec moi, on parle souvent d'argent autour des tennisman et j'ai un basketteur. Tiens Fred, je voudrais qu'on commence par toi. Fred,
je suis le plus mauvais exemple que tu pouvais choisir.
Non mais comment l'argent a guidé ta carrière, toi? C'est quelque chose qui est présent forcément, évidemment.
Alors,
dans les choix.
J'ai alterné le fait de penser que l'argent était très important avec le fait de penser que c'était pas important et dans les deux cas je me suis planté. Un résumé, j'ai 22 ans, je viens d'être drafté par New York et je dis je viens d'avoir une année fiscale, je retourne à Limoges, le club est en faillite, je redonne 70% de mon salaire pour que le club continue à exister. Et là, je me dis, il faut que je me refasse. Il y a le PAOK Salonique qui m'appelle, je vais signer au PAOK, et tout le monde me dit, en Grèce, c'est compliqué, ils ne payent pas tout le temps, etc. Ben, je vais en Grèce, parce que franchement, le contrat qu'ils me proposaient était mirobolant pour deux saisons nettes d'impôts. En plus, il faut s'en rendre compte quand même.
Donc, tu y vas notamment pour l'argent.
Et j'y vais pour l'argent, que pour l'argent.
Parce que quand tu quittes New York, tu t'assois quand même sur un énorme paquet d'argent.
En fait, quand je quitte New York, ils me proposent 5,6 millions de dollars sur 4 ans. Et moi, je leur dis non, mais je reviendrai l'année prochaine, je me remets de mon dos, donc je vais à Limoges, je perds 70% de mon salaire. Et là, mon agent va en prison, enfin, il y a un embrouille un peu compliqué. Et je me retrouve à choisir un club entre Malaga, qui me propose une certaine somme d'argent, et le PAOK Salonique, qui me propose 1 550 000 euros net d'impôts sur 2 ans. C'était plutôt correct, net d'impôts surtout. Et donc j'ai dit, allez, moi je me refais, je viens de me taper une année où j'ai rien gagné, voire j'ai perdu de l'argent, j'y vais. Évidemment, au bout d'un mois, ils m'ont pas payé, ils me font un chèque en bois, je le pose à la banque, le banquier m'appelle, ah, il est bien ce chèque, mais il n'y a rien dessus. Donc là, je me dis, bah, il faut que je change ma façon de voir les choses, et je me dis qu'il faut que je choisisse le sportif. Et c'est plus l'argent qui a guidé. À partir de là, je suis allé à Malaga, j'ai gagné un peu moins d'argent, mais je savais qu'il y avait des échéances, je finis l'année à Malaga, je gagne un titre. Et je me dis que c'est peut-être le meilleur choix possible. Je crois que choisir le sportif avant l'argent est bien plus intéressant. Et après, quand on a des opportunités, je suis pas contre les opportunités, hein, évidemment. Mais je pense que le sportif est plus rassurant et il y a plus de sécurité finalement dans le sportif que dans l'argent.
Mmh. Alizé, l'argent qui guide la carrière. Alors dans le tennis, c'est
vaste
singulier,
sujet.
C'est un sport individuel en plus. Hein.
Mmh, oui, il faut pas oublier que nous, les joueurs de tennis, on est des chefs d'entreprise. Donc à part notre chambre d'hôtel qui est payée par le tournoi, c'est nous qui dépensons de l'argent pour assumer notre staff. Nos kinés, entraîneurs, préparateurs physiques, toutes les personnes qui voyagent avec nous, c'est quand même à notre charge. Donc ça fait des des frais assez conséquents. Et c'est vrai
que tu leur payes des billets en première quand tu voyages.
Ils voyagent en soute en général, c'est quand même moins cher. Et non, mais c'est vrai quand c'est vraiment une formation en accéléré hein, d'être joueur de tennis, parce que moi je suis passée pro à 15 ans. Alors j'ai été beaucoup épaulée par mon grand frère qui a veillé au grain, qui a été là pour me guider. Mais c'est vrai qu'on est obligé de prendre conscience de cette valeur de chef d'entreprise qu'on a et qui nous fait décider avec qui on travaille, qui on va payer, avec qui on va voyager. Et moi, ça n'a jamais été une source de motivation, l'argent. Jamais, jamais. J'ai toujours été consciente que c'était important pour que je puisse investir dans ma structure et devenir de plus en plus professionnelle, que c'était important.
Ouais, t'étais consciente quand même que ça servait à
évidemment,
à progresser.
Voilà. En fait, pour moi, c'était un outil pour devenir meilleur. L'argent a toujours été un outil pour devenir meilleur. J'ai toujours eu dans un coin de la tête que j'aimerais faire des économies pour plus tard être à l'abri, surtout que je suis passée pro assez jeune et j'ai eu une très longue carrière, donc j'ai eu la chance de, en faisant des placements intéressants, d'être à l'abri, donc ça a été mon objectif. Mais après, on a tous une approche très différente de l'argent. Moi, je connais des joueurs qui, dès qu'ils engrangent un prize money, vont le flamber, à faire la fête, à dépenser de l'argent, à aller sur un yacht, quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours un rythme de vie très très simple et finalement, l'argent que je récoltais, il me servait pour être meilleur et pour ma carrière. Après, c'est vrai que nous, dans le tennis, on a des gros prize money et il y a des joueurs qui partent très vite à l'étranger, Dubaï, la Suisse, la Belgique notamment, pour justement ne plus payer d'impôts, puisqu'en France, on se fait quand même défoncer. Mais moi, j'ai choisi de rester en France parce que c'était un choix de vie. J'avais pas envie de me cacher à l'étranger, donc je suis restée en France. J'ai payé mes impôts et je les paye toujours depuis que je suis devenue pro. Et ça aussi, c'est vraiment un choix de vie, un choix de carrière qui peut vraiment déterminer la suite, puisque pour le coup, on n'a pas les mêmes revenus quand on part à Dubaï ou quand on reste en France.
Et à un moment dans ta carrière, est-ce que tu as eu des périodes où l'argent rentrait moins parce que tu gagnais moins? Est-ce que tu étais obligé de faire des choix, d'emmener un tes entraîneurs ou non avec toi en tournoi, parce qu'on le voit avec les joueurs qui sont un peu moins bien classés que vous l'étiez. Vous êtes vous étiez l'élite du tennis français, mais pour certains c'est très dur de joindre les deux bouts, hein.
Bah, moi pour ma part j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je suis restée quasiment dans le top 50 toute ma carrière, donc finalement j'ai eu très peu de fluctuations de prize money, j'ai eu des sponsors qui m'ont suivi régulièrement dans ma carrière, donc je pouvais quand même mettre en place la structure que je souhaitais autour de moi. Mais c'est vrai que ça peut être très anxiogène pour des joueurs qui ont des saisons un petit peu haut et bas.
Tu en as vu beaucoup dans ta carrière des joueurs
Oui, pour lesquels l'argent était une source de stress, oui, beaucoup. Surtout quand on sort du top 100 et que finalement les revenus sont un peu éclectiques.
Ah, et pour qui être dans le tableau, réaliser les qualifs dans un tournoi du Grand Chelem,
ça peut faire une énorme différence entre les tableaux finaux de Grand Chelem, les qualifs de Grand Chelem, ça peut faire une énorme différence. Il y a des joueurs au-delà de la 100e place mondiale qui ne peuvent quasiment pas voyager avec un staff ni avec un entraîneur. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai toujours pu choisir et c'était un confort incroyable parce qu'au final, quand on est sur le court, on peut jouer juste pour le sportif, comme tu disais Fred, sans se soucier du reste. Et moi, le sportif, effectivement, je l'ai toujours mis en priorité. Et pour moi, la motivation principale, c'est d'essayer de donner le meilleur de moi-même, d'être la meilleure version de moi-même. Et c'est vrai que ça, c'était quand même très confortable.
Par rapport aux sponsors, comment ça se passe? Parce qu'on parle d'argent. Est-ce que quand tu as une super perf, tu vas avoir d'autres sponsors?
T'as des primes de résultats.
Tu vas en chercher d'autres, ils viennent te chercher.
C'est le travail des agents, ouais. Ça. Hein. C'est le travail des agents. Nous, on le fait pas. C'est les agents. Alors
mais
moi, ça.
Vous faites pas le commercial, quoi.
Ah, mais c'est intéressant, ça. Vous gérez pas votre argent directement.
Les contrats. Quand Fred dit, après une grande performance, est-ce qu'il y a des sponsors qui viennent, etc. Ça, en général, nous, on le fait pas.
Oui, mais c'est un droit de regard, quoi.
Oui, bien sûr, on a un gros droit de regard. Mais il y a un agent
qui signe. Quand même.
Et puis,
oui,
bien sûr.
C'est ton agent.
Mais ça dépend vraiment de là où tu fais une grosse perf. Par exemple, Loïs Boisson qui explose.
Je pense à Roland, justement.
Voilà, à Roland Garros. Là, c'est le double effet qui se coule. C'est-à-dire que c'est la dernière française en course, demi-finale, en France, à Paris, Roland Garros. Donc, il y a forcément son agent, là.
C'est lui, jackpot, là. Elle a changé de vie d'un coup.
Ouais. Je sais pas. Ouais, non, mais alors, déjà, le prize money est énorme.
Valentin Vacherot, c'est pas mal aussi, hein, qu'il a gagné cette semaine.
Non, mais énorme. Mais aussi, du point de vue des sponsors, là son agent, c'est lui qui reçoit beaucoup de coups de fil ou quand il contacte des gens, ça répond tout de suite. Et là après ils ont le choix. Donc là après peut-être que l'athlète, elle va se dire ok, bah, je préfère être lié avec telle marque ou lié avec telle société qu'avec une autre.
Et mais vous ne fonction... le dites pas au départ en le... disant moi, je préfère que vous cherchiez dans ce secteur-là parce que je, ça c'est correspond compliqué. Plus à mes valeurs.
Non, donc c'est pas... compliqué ça.
Le seul piège, c'est par exemple, on l'a vu avec le cas de Raducanu, tu en parlais tout à l'heure, de ces joueuses qui ont un coup d'éclat sur un tournoi, un énorme coup d'éclat. Pour le coup, dans son cas, c'était gagner un grand chelem en sortant des qualifications. Elle avait l'avantage d'être très bankable, d'être jolie, d'être très jeune. Et au final, je pense qu'elle s'est laissée un tout petit peu absorber par toute cette médiatisation. Sa boîte d'agent,
le sportif en apathie.
Ouais, sa boîte d'agent a dû gérer les contrats en prenant tout ce qu'il pouvait prendre.
Une méga star d'un coup.
Elle a signé des millions de contrats de dollars.
Mais presque plus parce qu'elle était une sorte d'influenceuse. Elle était joueuse de tennis. Donc
en fait, c'est sa performance sportive qui a déclenché le truc. Mais derrière, ça s'est renflammé de par le fait qu'elle soit un peu influenceuse parce qu'elle est beaucoup suivie sur les réseaux, que elle est très photogénique ou télégénique. Ouais. Elle est britannique, qui est quand même un marché et un pays où ils portent au nu leur star sportive. Et elle a signé. Et là, du coup, c'est des sommes qui sont.
Mais ça, du coup, c'est un exemple très modeste. Écrasée par la pression qui a suivi finalement ces signatures de millions de dollars de contrats.
Bah, bien sûr.
Et elle a pas réussi du haut de ses 18 ans.
Exactement. Pareil, non,
c'était un. Ouais, c'est ça. Même, mais en fait, si tu fais un rapport,
elle a pas eu les mêmes résultats que si Raducanu, elle a jamais gagné grand chelem.
Si tu fais un rapport, le prize money qu'elle peut gagner en un an, donc sur le terrain, par rapport à ce qu'elle gagne en dehors du terrain, c'est x5 pour Raducanu. C'est le fait de. Donc l'écart, il est énorme.
Dans le vestiaire des grandes gueules du sport, le sujet, c'est comment l'argent guide votre carrière. Un sujet qui est souvent un petit peu tabou. Alizé, j'ai retenu une phrase que tu as dit tout à l'heure. C'était on a les carrières éphémères. L'important, c'est de se mettre à l'abri. Aussi, se mettre à l'abri. C'est quand même un sujet qu'on entend beaucoup chez les jeunes footballeurs aussi, qui sont beaucoup parfois approchés, dans tous les sports de haut niveau. Toi, Fred, c'est quelque chose auquel tu pensais aussi. Il va falloir engranger rapidement.
Moi, j'avais cette expression, je veux pas manger des cailloux après ma carrière.
Parce que souvent, il faut le dire aussi, hein, les sportifs, alors ils viennent de tous les horizons, hein, les familles modestes, des familles un peu plus riches. Donc parfois,
ils n'ont pas le même rapport avec l'argent.
Non, mais parfois, il y a un vrai enjeu pour un enfant prodige, par exemple, même pour toute une structure familiale, même.
J'ai la chance d'avoir une famille qui était très structurée. Alors, on vient pas d'une famille très riche, mais mes deux parents étaient ouvriers en Lorraine dans la sidérurgie. Donc évidemment que non, mais c'était des bons terriens, c'était des Italiens immigrés, donc forcément.
Un sou est un sou,
exactement. Et la première volonté, effectivement, c'est de se mettre à l'abri, de se dire qu'à la fin, on ne sera pas obligé de venir bosser sur les grandes gueules du. Non, pardon. se dire qu'à la fin, on sera pas obligé d'aller courir à droite à gauche et évidemment. Après, moi, j'ai eu un contexte après ma carrière qui a été très compliqué moralement, mentalement, et qui m'a fait faire des erreurs. Mais jusque-là, tout se passait extrêmement bien. Le plan était sans accroc, j'ai envie de dire. J'ai fait ce que je voulais. J'ai une vie, comme Alizé, extrêmement simple. La preuve, j'ai jamais de montre, j'ai pas de moi tous ces objets de luxe, ça ne représente absolument rien à mes yeux. Et c'était plus important.
T'as pas une Porsche,
j'ai une toute petite voiture, donc non.
Ah, tu dois être beau dans la Fiat 500.
Après, je pense qu'on se met à l'abri aussi suivant les besoins qu'on se crée. C'est-à-dire que moi, je peux être à l'abri avec très peu d'argent parce que mes besoins sont très faibles aussi. Donc c'est plus simple aussi.
Il faut pas oublier qu'on est des jeunes retraités, hein, à 30, 35 ans, la première carrière professionnelle est terminée. Et c'est vrai qu'il faut y penser assez tôt pour pouvoir anticiper et trouver une reconversion.
Est-ce que vous êtes fait des cadeaux de milliardaires justement?
Moi, jamais.
En gagnant beaucoup d'argent.
Alors,
jeune.
Moi.
Tu t'es fait des cadeaux?
Ça m'intéresse.
Vas-y, Bennett, c'est quoi le premier?
Moi, en 2006, je suis nulle part. Au début de l'année, je suis 150e mondial. Et on parlait des primes des sponsors. Et en fait, j'avais des grosses primes si j'étais chez un sponsor, mais j'étais 200-250e mondial, donc j'avais ce qu'on appelle une somme fixe qui était ridicule. Et puis je fais Carrara Roland Garros, donc je monte, je suis 60e mondial, et puis je joue pas mal dans l'été, et je vois sur mon contrat si je finis l'année top 50, j'ai une grosse prime. Parce que quand j'ai signé le contrat 3 ans avant,
mais il peut pas imaginer, ouais.
Bah oui, j'étais 200e mondial.
Attends, ça t'a motivé quand même.
Exactement.
Ça t'a guidé.
C'est la seule fois où et j'ai dit à mes entraîneurs, j'étais avec Olivier Malcor et Olivier Soulès. J'aurais dit, si j'arrive à être top 50, je m'achète une voiture. Et, l'objectif, c'était une Porsche. Et donc, parce que ça correspondait pile poil le mon bonus.
Le montant.
C'était, allez, je prends le chèque du bonus et je le vais directement à la concession, et c'était ça. Et arrive le dernier tournoi de l'année à Bercy et je joue 100 euros au premier tour.
Et t'arrives avec ta Porsche à Bercy?
Non, non, j'avais
fait encore,
les calculs. J'avais fait les calculs. J'avais fait les calculs.
Ah oui, il fallait que tu.
Donc je regarde. Et d'après mes calculs, si je passe le premier tour, c'est bon. Je gagne. Et je me souviens, mon entraîneur dans le Players Box, quand je gagne, il me fait de la voiture, le volant, c'est bon, c'est fait. Et en fait, je joue derrière Fernando González, qui joue la place au Masters, je le bats, et heureusement, parce que si je ne l'avais pas battu, je finissais 51, j'ai peut-être planté dans les calculs.
Tu t'étais planté dans les calculs. Et le mec, il me batte sur les mathématiques tout à l'heure, c'est incroyable quand même.
Donc ça, voilà, c'est vraiment le.
T'es arrivé comme un roi, concessionnaire. Quand t'as pris ta
part. Oh, non, mais voilà.
Avec l'alias, tu sais.
Ouais, forcément, ça peut être une source de motivation, voilà. Évidemment, pour faire plaisir.
Petite carotte,
carotte.
C'est le truc où je me suis fait plaisir sur mes 18 ans de carrière.
Moi, je me suis fait simplement un cadeau de fin de carrière. Donc, l'année dernière, puisque je savais pas que j'allais faire un comeback cette année. Et mon cadeau de fin de carrière, c'est que je me suis offert un fourgon aménagé. Voilà, sur lequel je pars sur la route, avec lequel je pars sur la route.
Ça coûte plus cher ou moins cher qu'une Porsche?
C'est beaucoup moins cher.
Ça dépend comment il est aménagé.
Il est très très bien aménagé, c'est aux alentours de 40 000 euros. Mais pour moi, c'était un énorme cadeau que je me faisais. Ouais. Je m'étais jamais octroyé quelque chose de cet ordre-là.
Ça te permet de faire des économies. Ouais,
puis surtout, ça me permet de rester dans cette vie simple que j'adore. Et pour moi, c'était vraiment le cadeau le plus symbolique que je pouvais me faire.
Bon, moi, j'ai pété les
plombs. Donc, les eaux grises, les eaux noires et tout ça.
Je connais par cœur.
Fred.
Ouais, je dis, j'ai pété les plombs. Une fois, j'étais en vacances et je vois un Hummer. J'avais jamais dépensé d'argent de ma vie. Honnêtement, tous mes potes me connaissent. Quand je dépense 100 balles, c'est le bout du monde. Je suis pas bien. Et là, il y avait un Hummer qui m'attendait. Je l'ai acheté en vacances.
Non, mais c'est pour ça.
J'ai acheté le Hummer. Comme
là,
ça.
Peut-être vous nous écoutez. Vous vous dites, oh, ils sont complètement hors sol. Regardez ce qu'ils s'achètent. Mais mettez-vous à la place, justement, des sportifs. Si un jour vous êtes sportif de haut niveau, d'un coup, vous gagnez beaucoup d'argent alors que vous n'étiez pas forcément habitué ou issu d'une famille avec de l'argent. Qu'est-ce que vous auriez fait, finalement, à la place de Fred Weiss, de Julien Beneteau?
Mais non, on gagnera jamais cet argent-là. Mais moi, je trouve ça sain de quand tu gagnes de l'argent, te faire au moins un cadeau dans ta carrière, s'acheter une Porsche.
Bon, on est quand même dans une table assez raisonnable, hein, moi, je trouve. J'aimerais bien avoir d'autres joueurs invités. Moi, j'ai quelques noms en tête.
Non, mais aussi, c'est différent entre un sport individuel où, Alice disait, on est pas salarié, on est chef d'entreprise, entre guillemets, et un sport collectif où ils sont salariés d'un club. Et après, eux, ils ont des choix à faire en fonction des propositions. Est-ce que je vais dans un club pour le sportif et gagner un peu moins? Est-ce que là, j'ai une proposition? On voit bien les joueurs de foot. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a d'autres clubs qui proposent des salaires.
Choix de carrière,
c'est des vrais choix de vie, des vrais choix de carrière. Et sur les sports individuels, à un moment donné, il faut mettre les choses à l'endroit et se dire que si on est fort sportivement, dans les sports individuels, l'argent viendra. Donc il faut tout faire pour être performant.
Mais il faut pas tout faire pour essayer de gagner de l'argent.
Exactement. C'est ça, non, parce c'est que là, tu peux faire des mauvais choix. Tu peux prendre un entraîneur qui va te coûter moins cher à la semaine en tant que joueur de tennis. Mais s'il est moins bon qu'un mec qui est plus... Et que tu gagnes moins de matchs. Oui, sur le moment, quand tu vas sortir, quand tu vas payer... Tu vas avoir l'impression de gagner de l'argent parce que tu dis, tiens, je fais des économies, il me coûte moins cher que l'autre.
Mais d'ailleurs.
Mais sur deux ans, peut-être que tu as gagné beaucoup plus de matchs et des tournois et de prize money, et donc du coup, il t'aurait coûté plus cher.
C'est un vrai
investissement. Donc voilà, faire toujours des choix en fonction de ce que tu penses être le mieux pour toi sportivement, parce qu'à la fin, en tout cas dans le milieu du tennis, tu gagneras de l'argent.
L'argent sera une conséquence finalement de tes choix sportifs.
De tes choix et de tes résultats.
On va fermer la porte de ce vestiaire, mais c'est vrai que pour les plus jeunes qui nous écoutent là, souvent on pose cette question, mais qui entendent tous ces sujets-là, il faudrait se préparer à gagner de l'argent dans le sport de haut niveau.
Comment tu te prépares à gagner de l'argent?
Mais non, mais je sais pas. Est-ce que
il y a des formations maintenant
pour savoir quoi faire de ton argent. Nous, les basketteurs, on a de plus en plus les agents qui t'accompagnent, qui t'expliquent, qui sont accompagnés par des personnes. Mais en soi, c'est pas facile
déjà,
de
préparer.
C'est gagner au loto à 18-19 ans. Voilà. Il faudrait d'abord gagner au loto à 18-19 ans, être accompagné par la Française des Jeux.
Et ensuite, après,
la première chose et l'essentiel, c'est d'être bien entouré. En fait, à partir du moment où tu es bien entouré par ta famille déjà, dans un premier temps, tu te protèges de beaucoup de pièges.
Oui, parce qu'il est arrivé quand même que de grands sportifs de très haut niveau fassent de très mauvaises affaires. Ils se fassent même rouler par des membres de leur famille. Je me rappelle de l'histoire de Carole Merle, par exemple, grande skieuse française, dont le parrain était en fait son agent. Et il l'a roulé dans la farine.
Alors, ça, Sanchez s'est fait voler par son père et tant d'autres...
Mais c'est pour ça que c'est un sujet intéressant aussi, parce que vous savez, on parle aussi dans le football maintenant de ces parents qui ont des projets Mbappé pour leurs enfants, qui veulent en faire des champions pour gagner beaucoup d'argent finalement. Donc c'est un vaste sujet.
C'est encore un autre sujet. Ça,
et Madame Dembélé, elle est pas contente. Elle a demandé au fisc, mais c'est pas possible. Il m'a filé 200 000 euros et il faut que je paye des impôts dessus. Non mais attends.
Le père de Yamal qui parle aussi de l'argent à chaque fois qu'il peut gagner grâce à son fils. Il dit tout le temps merci, je gagne de l'argent grâce à mon fils et tout ça. Donc c'est vrai que tout le rapport de l'argent. Ça peut nous donner plusieurs vestiaires, hein, parce que c'est un sujet très complexe, parce que ça guide pas forcément la carrière principalement, mais c'est forcément omniprésent dans vos carrières d'une façon ou d'une autre. On referme la porte du vestiaire, les amis, toujours fascinant de vous entendre dans ces moments-là, pour savoir un peu ce qui se passe finalement dans votre intimité sportive de haut niveau. On sait pas toujours, et c'est forcément toujours intéressant. Dans quelques instants, vos grandes gueules du sport sur le buzzer, mais d'abord, je vous rappelle qu'il y a un jeu à la fin de l'émission, les jeux du sport. Vous pouvez participer pour gagner avec vos GG un PC portable de la marque Altic aujourd'hui. Participez au quiz avec les GG en appelant le 32-16 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Envoyez sport au 7-32-16. Il y a un ordinateur à gagner comme ça, juste en envoyant sport au 7-32-16. Et peut-être que si vous jouez avec Fred Weiss, il est assez performant dans le jeu.
C'est vrai.
Ça peut vous aider à passer l'année, par exemple, avec un nouvel ordinateur.
En plus, je suis prêt à tout.
C'est plutôt sympa. En plus, il est prêt à tout, vous avez entendu.
Il veut pas dépenser 100 balles pour acheter un ordinateur.
Ça, c'est vrai.
Si tu peux lui filer, ça l'arrange.
Ça, effectivement, ça peut m'arranger.
Allez, dans quelques instants, vous savez que les frères Lebrun sont encore en haut de l'affiche. Ils sont en finale des championnats d'Europe par équipe. Aujourd'hui, est-ce que ce sont déjà des légendes du sport français? Ça divise déjà nos GG du sport. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport parlent gros sous pendant la coupure avec Christophe Cessieux notamment.
Fred Weiss. Sous, c'est avec Christophe Cessieux. Ah oui, évidemment, c'est celui qui a pris le plus d'argent.
J'ai gagné une thune, moi. Merci.
Dit-il en retour de ses vacances au Brésil. Julien Benedetto, Alizé Cornet sont là dans un instant. Les jeux du sport. Je vous rappelle, inscrivez-vous au 7-32-16 en envoyant sport pour participer et gagner un PC de la marque Altic. Aujourd'hui, on va voir quel GG connaît le mieux le sport. Mais d'abord, les deux frères préférés des Français sont encore là ce dimanche.
Allez, Félix, un bon retour là. Il faut lui faire mal directement. Un coup droit qui rentre dedans. Là, ça part en diagonale.
Super
droit,
bien,
et c'est le Japonais.
Allez,
qui va à la faute en premier. Nouvelle balle de match pour
allez,
Félix Lebrun. Allez, Félix,
pas
12-11.
Pas de latéral court milieu. Pas de latéral court milieu. Tu me fais du long. Soit tu me fais du long, soit tu me fais du court revers.
Allez, service qui est c'est de fait. Félix. Et oui, Félix, bravo, Félix. 12-11 pour l'équipe de France. Et dans le médaille de bronze pour le ping français. C'est la deuxième médaille de bronze.
RMC. Les GG sur le buzzer.
J'aime bien toujours quand on se replonge dans Paris 2024. Là, ça remet des frissons quand on se rappelle de ces médailles, non, Christophe?
Ah oui,
non,
bien sûr.
Voilà, quand même.
Une ambiance à la salle de ping-pong en plus, c'était à côté d'ici, d'où nous sommes.
À la salle de ping. Attention, parce que là, sinon, tu vas te faire attraper par les, les fondamentalistes
les
du
puristes.
Ping. Sur le buzzer, donc, nos bleus sont en finale des championnats d'Europe par équipe du tennis de table en Croatie à Zadar, Julien. Ils ont battu hier leur grand rivaux allemand, 3-1, meilleur européen de sur les 20 dernières années. Ils vont affronter la Roumanie aujourd'hui à 17h. C'est à suivre en direct sur RMC. La France, menée par les frères Alexis et Félix Lebrun, bien sûr, mais aussi Simon Gauzy, oui, qui a gagné tous ses matchs, peuvent décrocher un titre attendu depuis 1998. Et oui, en 98, on avait gagné la Coupe du Monde de foot et également le Championnat d'Europe par équipe en ping. DGG, je vous pose cette question. Les frères Lebrun, parce que ce sont eux qui mènent les têtes d'affiche aujourd'hui du ping, sont-ils déjà des légendes du sport français? Alizé Cornet.
Pas encore, oui, mais ils sont en bonne voie pour le devenir s'ils continuent comme ça.
Pas encore, mais en bonne voie. Julien Benedetto.
Incroyable qu'on puisse poser ce genre de questions.
Tu vas faire tout ce débat avec ta main devant la bouche?
Ouais. Je suis désabusé.
Christophe Cessieux.
Je suis dans la roue de Bennett.
Et Fred Weiss.
Bien sûr.
Ce sont des légendes.
Mais oui.
Ce sont des légendes. Au 32-16, on vous attend pour participer. WhatsApp 06-12-424-424. Léna Marjac nous rejoint. Salut Léna.
Salut tout le monde.
Là, salut, c'est une légende du journalisme. Elle est en train de devenir une légende.
Bien sûr. Elle va nous faire vivre cette finale depuis Zadar. Léna, les Lebruns vont tenter de monter sur le toit de l'Europe au terme d'une saison où ils ont accompli encore du jamais vu, c'est ça?
Oui, parce que déjà, il faut noter un résultat, c'est sûrement le plus gros de la saison, c'est la finale de Félix au China Smash, c'était en début de mois. C'est l'équivalent d'un grand chelem au tennis, et c'est le premier Français à réaliser ça. Et en plus, dans le même tournoi, il bat trois Chinois chez eux, à domicile, c'est rare et c'est totalement inédit. Et puis, il y a aussi cette saison assez folle au niveau européen, que les Lebruns peuvent clôturer de la meilleure des manières ce soir. C'est-à-dire faire, alors on va créer un peu l'expression, mais un grand chelem européen, en gros... Être champion d'Europe en simple, Alexis l'est. Champion d'Europe en double, Félix et Alexis le sont. Gagner le top 16 européen, c'est une compétition qui regroupe les 16 meilleurs joueurs du continent. Alexis l'a gagné aussi cette année. Et donc là, potentiellement, devenir champion d'Europe par équipe. 6 victoires face à la Roumanie. Et donc tout ça, en un an seulement, c'est juste fou. Ce serait une performance exceptionnelle. Mais au-delà de tout ça, il y a surtout l'envie, on t'a entendu Georges en parler un petit peu, de mettre fin à 27 ans de disette. Depuis 98, la France n'a plus remporté ce titre de championne d'Europe par équipe. Alors à l'époque, c'était une toute autre génération. Il y avait Jean-Philippe Gatien, Damien Eloy, Patrick Chila. Et donc forcément, du côté d'Alexis Lebrun, et je suis obligée de citer aussi Simon Gauzy, on a envie de dépasser les anciens, de les mettre aux oubliettes, entre guillemets, écoutez-les.
C'était une génération très forte, donc on espère pouvoir suivre cette lignée-là. On en rigolait avec Patrick, il nous dit que ça lui fait super plaisir d'être un peu effacé des livres.
Je pense que les gars, Damien, Chris, Philou, Patrick sont très heureux de tout ça. Eux, ça fait un peu trop longtemps qu'on leur a bâché qu'ils étaient les derniers, donc ça va. Je pense qu'ils ont profité, maintenant c'est bon.
Maintenant c'est bon, maintenant donc c'est à leur tour, le tour de Félix, d'Alexis et donc aussi de Simon. Mais pour aller marquer une nouvelle fois l'histoire, il va falloir aller battre la Roumanie. Ce sera tout à l'heure à 17h.
Léna, tu restes avec nous, tu es la voix du ping sur RMC. Les frères Lebrun sont-ils déjà des légendes du sport français, Alizé?
Non mais légendes du ping français, déjà oui. Oui, mais alors légendes du sport en règle générale, ils sont encore si jeunes et ils ont encore beaucoup de choses à accomplir, je pense. Et malgré toutes tous ces résultats inédits et le fait qu'ils portent haut les couleurs de la France dans le monde du ping, je pense que c'est un peu tôt encore pour les considérer comme des légendes du sport. Par contre, oui, légendes du ping, clairement, enfin, ils nous épatent depuis quelques années.
Ils épatent.
Ils sont les légendes numéro un du ping-pong.
Bah non.
On n'a pas dit numéro 1. Il n'y a pas qu'une légende.
Est-ce que ce sont les plus grandes légendes du ping-pong?
Génération Gatien, donc je dirais Gatien, évidemment.
Il faut déjà qu'ils arrivent à égaler.
Oui, aussi.
Chez Patrick Chila et Eloy. Déjà, il faut qu'ils arrivent à égaler ces sportifs français.
C'est pour ça que j'ai dit qu'ils étaient en bonne voie, parce qu'ils ont que 19 et 22 ans quand même. Il ne faut pas oublier.
Fred Weiss, pour toi, ce sont déjà des légendes du sport français?
Oui, mais j'ai l'impression que je suis à table avec des rétrogrades et qui ne pensent qu'au passé. Et je pensais pas ça d'Alizé, justement, qui me fait des signes. Elle ne pense qu'au passé. Alors, Léna a énuméré tout ce qu'ils ont fait. Et évidemment, c'est fantastique. Et moi, j'irais beaucoup plus loin. Ils ont réussi à créer un tournoi à Montpellier. Ils ont réussi à faire que la Fédération Internationale crée à Montpellier un tournoi de tennis de table. C'est juste fantastique. Ça nous fait exister au niveau
cet
après-midi, moi je fais pétanque, ping-pong et chasse au canard à côté avec Cécile Moulineau. Vous êtes tous les bienvenus.
Et il y aura du monde. Tu crées un World Tour, donc tu es capable de créer un World Tour. En fait, je reparlais des rétrogrades, vraiment c'est d'une tristesse absolue. Mais si tu veux, je viendrai te voir et je te donnerai une petite pièce.
Le pire, c'est qu'ils s'en croient à moi, alors que je suis la seule à dire que ce sont des légendes du ping.
Juste pour continuer,
je suis pas la bonne cible.
Mais j'avais envie de m'attaquer à toi et aussi à lui à tout le monde, parce que vous avez
Fred,
tous tort.
Tout le monde.
En fait, ce qui se passe, c'est que une légende, c'est quelqu'un qui crée des nouveaux codes. Et c'est quoi les nouveaux codes?
Alors,
le nouveau code, c'est d'avoir réussi à instaurer ce tournoi majeur. C'est un tournoi majeur à Montpellier. Ensuite, quand on parle avec les gens dans la rue, qu'est-ce qu'ils vous parlent de quoi? Il vous parle de tennis de table. Vous pensez qu'un jour les gens allaient vous parler de tennis de table? Vous pensez qu'un jour autant que personne allait regarder du tennis de table? C'est faux. Ils ont créé un un mouvement, j'ai envie de dire, ouais, sur le tennis de table.
Ouais, ouais,
et cet engouement est juste incroyable. Il y a plus de licenciés, il y a plus de gens qui pratiquent. Les gens les connaissent partout. Ils font des pubs avec les personnes les plus célèbres de France, les rugbyman. Donc à partir de là, on se rend compte que ce sont des légendes, ils sont connus.
On dirait une cagole. Tu es en train de te transformer en influenceur.
Donc tu es en train de t'expliquer que créer un tournoi mondial en France juste pour les
Lebas. Une légende. Mais toi, oui, tu es une légende du basket.
Non,
français.
Mais bien sûr que j'ai pas créé de tournoi. Mais... J'ai pas créé de tournoi à mon nom. Enfin,
Je pense je pense que ce soit de magnifiques, ambassadeurs pour le tennis de table en France.
Fantastique, pas de débat. Mais c'est génial.
Que dans un moyen terme, ils deviennent des légendes du sport français. Possible. Et ça, parce que là, c'est des légendes du sport français. Alors, vous allez me dire s'il s'assoit à la table de David Douillet, Pérec, Zidane, Mbappé, Riner.
Non, mais là, déjà, tu peux.
Kili, c'est quoi les légendes ? Noah, Mauresmo, Hino, Prost, Parker, et j'en oublie.
J'ai la même liste.
Merci.
Non, mais est-ce qu'ils
sont à la même table ?
Mais alors, déjà, les légendes, t'as plusieurs niveaux de légendes. Moi, alors, t'as la légende d'or, la légende d'argent, la légende de bronze.
Moi, je vais aller dans le sens de Fred Weiss, qui est un immense capitaine aujourd'hui. Encore, il le démontre encore. C'est que dans 20 ans, dans 30 ans. Exactement. Dans 20 ans, dans 30 ans, on continuera de parler des frères Lebrun. Ça aura marqué.
Mais bien sûr.
Ils ont marqué. On parle des garçons qui font du ping, je suis d'accord avec Fred, et qui ont réussi à aller au-delà. Ces garçons aujourd'hui vont aux Enfoirés, par exemple, qui est l'événement le plus populaire du France.
Pour du ping, les gars, rappelez-vous ce que c'est le ping. Personne
on ne rentre pas dans la légende
ping, personne...
que par des titres. Si. On peut rentrer dans la légende par également
ce que l'on fait. C'est ton palmarès et ta
mais personnalité. Mais il faut parler de leur sport, qui est un sport mineur.
Ce que tu représentes, mais aussi ton palmarès. Je suis désolé,
ils sont pour la palmarès.
Médaille de bronze olympique. Quand ils sont champions olympiques, on en rediscutera.
Félix Lebrun va en Chine, arrive à aller en finale d'un grand chelem en Chine en battant des Chinois.
Oui, mais bon, c'est
finale. Ça veut dire que Rinderknecht, il est dans les gens du sport français.
Ah ouais, c'est ça.
Mais Shanghai, c'est un masterpiece, c'est pareil.
J'aurais jamais pensé que le ping vous mettrait dans cet état. Je me régale.
Non, mais ils ont des arguments tellement débiles.
Non, mais bien sûr.
Mais c'est une
légende. Attention, tout ça, mais c'est insultant pour les amoureux du sport.
C'est une légende, c'est quelqu'un qui laisse sa trace dans l'histoire. Si ils réussissent à instaurer vie, ce tournoi.
Un héritage.
C'est l'héritage qu'ils vont laisser. Et pour moi, ça, c'est une vraie légende. L'héritage que tu laisses. C'est quoi l'héritage qu'on va laisser, nous ? On a gagné des matchs ? Super. Eux, moi, ils laissent un tournoi de niveau mondial à Montpellier. Bravo, les frères Lebrun, vous êtes dans la légende. Je vous kiffe.
Ça, c'est pas pareil. Nous aussi, on les kiffe.
On a l'impression qu'on les aime pas.
J'ai l'impression que vous les aimez pas, vous les respectez pas.
Non, mais à ce moment-là, tout le monde est une légende. Bah, voilà. Vous êtes tous des légendes,
mais...
tout va bien.
Non, mais Christophe, ne sois pas insultant.
À ce moment-là, tu mets dans le. Normalement, le club des légendes, c'est un club très fermé.
Je peux pas dire tout le monde.
Je suis désolé pour entrer dans le club des légendes. Pour à moi, mon club des légendes à moi, c'est les gens que tu as cités tout à l'heure. Les autres, ils sont dans un club en dessous.
Les frères Lebrun ne sont pas tout le monde quand même. Tu dis tout le monde peut faire partie du club des gens. Oh, on se mesure, les gars, là. Vous êtes en train de perdre pied, là.
Ne me regarde pas de ta mère, déjà.
Mais clairement, ils ont l'étoffe nécessaire pour entrer encore plus dans l'histoire du sport et devenir des légendes à part entière.
C'est possible. Ils sont champions olympiques à Los Angeles.
C'est encore un tout petit peu tôt. Voilà, Fred, moi
Alizé,
je pense que c'est un tout petit peu tôt.
Toi qui es la seule personne réfléchie à cette table. Est-ce que tu ne penses pas que laisser un héritage tel que réussir
à délocaliser
un tournoi, le créer en France, parce que ces joueurs sont tellement incroyables,
ils ont fait des choses légendaires et historiques, mais ça ne fait pas encore d'eux des légendes du sport français.
Tu te rends compte que tu le dis, ils font des trucs légendaires, mais c'est pas des légendes.
C'est deux choses différentes pour moi, et j'ai le droit d'avoir ma propre définition si tu arrives à respecter la vie des autres.
Non, ils ne respectent pas.
Mais c'est surtout quand tu dis deux fois la même chose, pour mettre légendaire et les gens,
c'est pas deux fois la même chose, ça veut dire créer des actions qui sont historiques.
Maintenant. il crée des... c'est Fred qui règne et on peut plus.
Il crée des actions historiques.
On rappelle Tupac, je suis sûr.
Non, j'abandonne. Georges, j'abandonne. Non, je n'abandonne jamais.
Alizé.
Non, voilà,
le mot de la fin. Le mot de la fin.
Non, mais je vais répéter ce que j'ai dit. J'entends tes arguments, je les trouve vraiment très pertinents. Ils ont créé des choses historiques dans leur sport. Ils sont connus au-delà de tout ce qu'on a pu connaître dans le ping. Laissons-leur encore un tout petit peu de temps. Je pense que même eux, de les considérer comme des légendes, ils sont peut-être pas encore prêts.
Les légendes ou pas, les frères Lebrun, on va les retrouver cet après-midi, Léna, hein, Léna Marjac en Croatie, Léna. C'est ça, 17h.
17h face à la Roumanie, face à cette finale. On est favori, mais justement, il va falloir garder statut et l'assumer. Donc, on verra s'ils vont réussir après cette énorme performance hier face à l'Allemagne.
Léna, normalement, oui, Léna, c'est des légendes.
Tu vas leur poser la
légendes.
Question s'ils se considèrent comme des légendes tout à l'heure, d'accord?
Je leur demanderai.
Ah, c'est incroyable. Fred Weiss va avoir raison sur toute la ligne aujourd'hui. Le capitaine à l'OM.
C'est pas du tout objectif, c'est incroyable.
Mais
la neutralité de Lancorman. Non, mais c'est incroyable.
Ce serait très intéressant de savoir si eux-mêmes se considèrent comme des légendes.
Voilà, exactement. Bah, il y a beaucoup d'humilité.
J'espère qu'ils ont l'humilité pour ne pas le reconnaître.
Ça n'a rien à voir. Allez, on revient dans quelques instants dans les jeux du sport. Vous êtes bons quand même parce qu'on vous met des petites pièces comme ça là. Et vous y allez tout de suite. Allez, on revient dans quelques instants pour jouer. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport. On reprend son souffle. Fred Weiss est en train de rendre fou toute la table. Alizé Cornet est tombé dans tous ses pièges.
On va lui sauter dessus avec nos petits poings.
Tu sais, Alizé, il faut savoir que David Douillet, par exemple, qui est quand même, tu sais, judo, on maîtrise ses émotions et tout ça. Et
il a réussi à le faire sortir de ses gonds.
Tous les pièges de Fred Weiss.
Donc ça va, je m'en sors pas mal en fait.
Tu t'en sors pas trop mal. Franchement, je trouve que tu t'en sors pas trop mal.
Pourtant, il y va pas avec le dos de la cuillère.
Alors que Christophe Cessieu l'a beaucoup pratiqué, il tombe dans tous les pièges. Tout comme Julien Beneteau qui est tellement énervé qu'il a envie de se battre avec lui dans les jeux du sport.
Pas du tout.
On joue tout de suite.
RMC, les jeux du sport.
Je vous rappelle le principe, c'est du 2 contre 2. Vous allez défendre un auditeur. Répartition des équipes. Équipe Cornet. Cessieux, les Denisois.
Issa.
Et Weiss, Beneteau, ensemble. Tu vois, Bennett, finalement, il est sympa, Fred.
J'ai jamais dit le contraire.
On a que nos auditeurs, Alil et Romain. Bonjour, messieurs.
Bonjour, messieurs, dames.
Alil, c'est toi qui as appelé en premier. Je te laisse choisir ton équipe. Est-ce que tu veux jouer avec l'équipe Christophe Cessieux, Alizé Cornet ou Fred Weiss et Julien Beneteau?
Fred
Weiss,
Beneteau.
Fred Weiss et Beneteau pour Alil. Et donc,
le mec veut gagner, tu vois.
Romain avec l'équipe Cessieux Cornet. Attention, téléphone, s'il vous plaît, tous les smartphones, là, je veux les voir. Allez. À distance, que personne ne triche. Julien Beneteau, qui s'en prend tout le temps aux arbitres, à savoir moi.
Je rappelle
le combat, le cadeau à gagner, je suis dans le combat, moi. Un PC portable de la marque Altic pour vous, les auditeurs. Allez, question à une seule réponse. Une seule réponse. C'est difficile, je vous rappelle. Qui est le leader de la Ligue 2 ce matin?
Saint-Etienne?
Non, dehors.
Lorient.
Vas-y.
Non,
faut prendre le temps là, Christophe, alors, puisqu'ils ont une réponse.
Trois bonnes réponses de Fred Weiss. Ah, Fred, il est incroyable. Christophe Cessieux est sidéré.
La Ligue 2.
Question à une seule réponse. On parlait de WRC hier. C'est Christophe dans son capitaine.
Et de Segar Ali.
Comment s'appelait le copilote emblématique de Sébastien Loeb?
Elena.
Daniel Elena, Julien Beneteau.
Trop fort.
Bien joué, bien monégasque. Sûr. Le monégasque Daniel Elena. Question pour vous, les auditeurs, Ali et Romain. Je vous pose une question, vous donnez votre réponse et votre prénom derrière, ok pour vous?
Ok.
Oui. En F1, qui a remporté la course sprint hier?
Verstappen, Ali, Romain.
Bien joué, c'est qui? C'est Romain ou Ali?
C'est Ali, il a dit Ali.
Romain.
Non, c'est Romain qui a donné. Donc ça fait. Ouais, Ali, il a d'abord dit Ali. La réponse a été donnée, bien joué. Mais ça s'est pas passé. Ça fait 2-1 pour l'instant. C'est un point pour l'équipe Cessieux Cornet. Question à une seule réponse, les GG. On parle des frères Lebrun, mais combien de médailles le ping français a remporté dans l'histoire des Jeux Olympiques? combien de médailles le ping français a remporté dans l'histoire des Jeux Olympiques? Une seule réponse. 4
4
4
J'allais dire 3, putain, bravo.
2-2, les Niçois reviennent. Question à une seule réponse. Le plus proche l'emporte. La Diagonale des Fous s'est déroulée à La Réunion ce week-end. 180 km parcourus, une course mythique. Combien de mètres de dénivelé positif sur
19 000
19 000, dit Christophe.
10 500.
Bon,
non,
croyable.
Non,
mais c'est quoi,
Harry SPC.
C'est quoi, ton frère, c'est Philippe Rizzoli?
Non, juste ouais, mais en fait, quand tu te mets dans l'équipe avec Bennett, t'es sûr d'avoir gagné, quoi. C'est. Ah, c'est...
Excuse-moi, maintenant tu vas critiquer ça aussi. Bon, 3 bah, il y a juste d'arriver, elle critique tout, c'est une
ça me rappelle quelqu'un, ça. Ça
va être.
J'ai rien critiqué en plus. Justement, j'apprécie la performance de Julien.
3-2 pour l'équipe Vase Benetto. Question auditeur. Ali, les Romains, c'est pour
les Romains.
La réponse et votre prénom ensuite. Qui est dernier du top 14?
Montauban. Bayon, à Lille.
Romain.
Wow.
Montauban, aucun des deux. C'est Perpignan qui est dernier du top 14. Aucun point sur cette là, séquence. Question à élimination. Deux points en jeu. Je vous rappelle, chacun répond à tour de rôle. Une erreur et vous êtes éliminé.
Ça, c'est dur.
Je vous demande, on a parlé d'argent tout à l'heure et de tennis.
Oula.
Citez-moi le top 20 des joueurs ayant gagné le plus de prize money chez les hommes.
Mais attends, c'est chacun notre tour ou...
Chacun votre
carrière
tour.
Ou l'année.
En carrière, citez-moi le top 20 des joueurs de tennis là, ayant gagné le plus de prize money. Alizé.
Federer.
Roger Federer, troisième, c'est bon. Fred Weiss.
Djoko.
Djoko, premier, 190 millions.
Rafa.
Christophe Cessieu. Attends.
Elle triche.
Raphaël Nadal.
Bah, en même temps, c'est évident.
Triche.
Attention, avertissement.
Excuse-moi, je savais
chacun
pas.
Son 20, tour, hein, chacun son tour.
Je m'incline.
Les 20 premiers. Bennett.
Zverev.
Zverev, cinquième. Et oui, on gagne beaucoup d'argent dans l'argent. Alizé.
Je sais pas. J'ai combien de temps pour répondre?
5.
4.
3.
De tous les temps, juste
2.
McEnroe.
1. McEnroe. Et non, McEnroe n'est pas dans les 20. On gagnait moins d'argent avant, Alizé. Attention, Fred Weiss. Les 20 joueurs ayant gagné le plus de prize money. Mais réfléchissez.
Ah, de prize money. Mais j'avais pas compris la question.
Il faut écouter. Alizé, toute l'émission, elle nous dit les mots ont un sens, les questions ont un sens.
Elle écoute pas depuis le début. Donc Alcaraz, c'est bon.
Terrible.
Elle dit quoi?
Alcaraz,
c'est bon. Alcaraz. Sinner, Christophe, c'est bon.
Medvedev,
8e. Oui, bien joué. Alizé éliminé, tu peux plus parler.
Ah, je peux plus parler.
Fred Weiss.
Je sais pas.
5. 4.
Fritz.
3. Quoi?
Fritz,
c'est bon, c'est juste, hein, 19e. Christophe.
Wawrinka,
10e. Bennett.
Murray.
Andy Murray, 4e, 64 millions. Fred.
Je sais que c'est pas le cas, mais Boris Becker,
c'est pas le gars éliminé, Fred. Christophe.
Ivan Lendl.
Il a moins gagné d'argent que John McEnroe, je pense. Éliminé. Bennett, je suis sûr que t'en as encore un pour gagner, de toute façon.
Je vais dire. Marin Cilic.
Marin Cilic, 12e.
Non,
bravo,
Bennett. Deux points marqués.
Il a gagné plus d'argent que McEnroe.
Il a 32 millions. Il y avait Tsitsipas, Ferrer, oui, Agassi, Rublev, Dimitrov, Tim, Berdych, Nishikori. 5-2 pour l'équipe Weiss, Benetto. C'est pas totalement terminé. Attention.
Attention.
Question auditeur, c'est pour vous à Lille et Romain.
Je joue plus, moi.
Qui a remporté le Six King Slam, cette compétition de tennis, ce samedi?
Sinner Romain.
Ah, ça remonte. Okay. 5-3. Attention, l'équipe s'est succornée. C'est pas terminé. Concentrez-vous. Question à une seule réponse. Quel numéro ne pourra plus être porté à l'OM?
30.
Bennett.
Il est rapide.
30 Bennett, 6-3.
Tu lui as fait un jeu-jeu. Exprès pour lui, quoi. Le tennis, l'Olympique de Marseille.
On a parlé en début d'émission.
Mais t'es avec Alizé,
elle est là. Elle est pas marseillaise,
Question à une seule réponse. Quel cycliste a annoncé ce vendredi qu'il mettrait un terme à sa carrière?
Quand?
Pierre Latour.
Là, c'est pas pour Christophe Cessieux.
6-4, jeu, 7 et match pour l'équipe Weiss Benetto qui s'impose.
Il reste une minute.
C'est n'importe quoi ce jeu.
Félicitations à Lille, c'est toi qui remportes le PC de la marque. Non, mais l'important c'était de prendre le temps également pour donner le classement. Pour l'instant, Mario Bartoli a fait un 100%. Elle a participé à deux émissions. Elle a gagné deux fois.
C'est pas là-dessus.
Fred Weiss, troisième. On a Julien Beneteau, qui est donc Julien Beneteau, qui passe en positif. Cette participation, 4 victoires, 3 défaites. Fred Weiss, qui est très bien, qui est en haut du classement, désormais, Alizé. Pour l'instant, Fanny, c'est pour ça qu'il faut revenir.
Je suis consternée par ma prestation. Là.
Et sois rassuré, on est consterné aussi.
Jouez au jeu du sport sur RMC et gagnez un PC portable Altic 16 pouces garanti 3 ans. Altic, la marque française d'ordinateurs basée à Nantes. Rendez-vous sur altic.com.
Alizé, maintenant que tu as toutes les clés, tu peux revenir avec toutes les armes.
Faut que je révise là. Faut que je révise mes fiches. Ouais.
Faut que tu révises surtout le profil de Fred Weiss pour savoir où l'attaquer la prochaine fois. C'était top de vous avoir les GG ce matin. Alizé, Fred, Julien, Christophe Cessieux. Merci. Je vous rappelle que les GG reviennent le week-end prochain, dimanche. On sera au Havre. Hein. On vous attend, le public. Les fans des grandes gueules du sport. Venez, il y aura Fred, il y aura Sarah Pitkowski, il y aura Jérôme Pinault et beaucoup d'invités pour le départ de la Transat. Café L'Or dans quelques instants, les Paris RMC. À tout de suite.